Aujourd'hui, à Washington.
Raissa Gérondin en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. En République démocratique du Congo, l'UDPS, parti historique d'opposition, a tenu son meeting à Kinshasa, une première depuis 2016.
Pour la majorité au pouvoir, c'est de montrer sa volonté à asseoir la démocratie. Et pour l'UDP, c'est d'insuffler un nouvel élan au dynamisme de ses partis.
À Madagascar, les manifestations de l'opposition se poursuivent pour la quatrième journée consécutive à Antananarivo. En France, garde à vue de Vincent Bolloré sur des soupçons de corruption en Afrique. Le groupe dément toute irrégularité.
Mais cette histoire montre comment des groupes français peuvent, par des réseaux d'influence, peuvent finalement obtenir certaines faveurs en l'échange d'autres prestations fournies.
Et le président français Emmanuel Macron vient de donner une conférence de presse conjointe à la Maison Blanche. Dans la Minute Éco, le géant de l'or Kibali plaide l'apaisement avec le gouvernement congolais dans l'application du nouveau code minier. Et après l'AS Roma, Mohamed Salah s'apprête à vivre un match avec Liverpool pour la demi-finale de la Ligue des Champions dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a tenu son premier meeting ce mardi à Kinshasa face à de nombreux militants réunis à la place Sainte-Thérèse de Ndjili. Le président de l'UDPS a annoncé qu'il sera candidat à la présidence de la République lors des prochaines élections. Le point avec notre correspondant Thierry Kambundi.
Je prends acte de votre meeting et vous invite par conséquent à veiller dans le déroulement de votre activité prévue de 11h à 15h au strict respect de la loi régissant les manifestations et réunions publiques dans notre pays. C'est en ces termes que le gouverneur de la ville de Kinshasa a répondu à l'Union pour la démocratie et le progrès social, autorisant de ce fait la tenue du meeting de ce parti ce mardi 24 avril 2018. Une décision qui tombe comme un signe d'apaisement car c'est depuis septembre 2016 que les autorités de la ville de Kinshasa n'avaient plus autorisé de manifestations publiques de l'opposition. En réaction, l'UDPS, organisatrice du meeting à l'occasion de la commémoration de l'introduction il y a 28 ans du multipartisme au Zaïre de Mobutu, promet une forte mobilisation de ses militants et sympathisants dans la discipline, a souligné son porte-parole Augustin Kabuya. Il s'agira de la première grande activité de Félix Tshisekedi depuis son élection comme président de l'UDPS, après le décès de son père, Étienne Tshisekedi. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en République démocratique du Congo, d'anciens membres de la rébellion Kamuina Nsapu ont été promus à des postes officiels. Kankun Katal, l'ancien bras droit du chef milicien Jean-Pierre Pandi, a été nommé à la tête de la garde civile du gouverneur du Kasaï central. En une année, les affrontements entre Kamuina Nsapu et forces de sécurité ont fait plus de 3000 morts, dont deux experts de l'ONU et 1,4 million de déplacés. En Mauritanie, trois prévenus ont été condamnés pour le préjudice moral subi par des personnes qu'ils ont traitées d'esclaves. Un an de prison ferme, des amendes pour ce type de délit dans un pays où la persistance de pratiques esclavagistes est régulièrement dénoncée par des ONG. Le gouvernement mauritanien réfute toujours l'existence de l'esclavage dans le pays. Au Mali, les autorités ont ouvert des enquêtes pour situer les responsabilités après la découverte de 10 000 enseignants fictifs sur les 16 000 que comptent les écoles communautaires. Des élèves fictifs ont également été découverts. Ils coûtaient à l'État plusieurs milliards de francs CFA par an, l'objectif de l'enquête étant de faire des économies. Vincent Bolloré a été placé en garde à vue à Nanterre, en banlieue parisienne. L'industriel français est visé par une enquête sur des soupçons de corruption autour de l'attribution de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. Des précisions de John Lyndon.
L'homme d'affaires a été entendu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Paris qui vise à déterminer si le groupe Bolloré a utilisé ses activités de conseil politique via sa filiale Avas pour obtenir la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée. Élu président en novembre 2010, Alpha Condé avait résilié le 8 mars 2011 la convention de concession du terminal à conteneurs du port de Conakry, octroyé en 2008 pour une durée de 25 ans à Guetma, une filiale de l'armateur français NCT Necotrans. Le gouvernement guinéen avait confié quelques jours plus tard la gestion du port au groupe Bolloré, déclenchant une bataille judiciaire entre les deux rivaux. Au Togo, en 2011, année de la réélection du président Faure Gnassingbé, le groupe Bolloré a remporté la concession du terminal à conteneurs du port de Lomé pour une durée de 35 ans. Cette décision est contestée par un autre concurrent. Dans un communiqué, le groupe Bolloré a formellement démenti toute irrégularité, affirmant que les prestations relatives à ces facturations ont été réalisées en toute transparence.
À Madagascar, la fronde contre le président Héry Rajaonarimampianina Mampianina ne fléchit pas dans la capitale Antananarive. Pour la quatrième journée consécutive, plusieurs centaines de partisans de l'opposition rejettent les nouvelles lois électorales et exigent la démission du président Éric Manirakiza.
Réunie sur l'emblématique place du 13 mai, la députée Anitrinian Rassamima Nantsoa a demandé la démission de tout le gouvernement, à commencer par le président Ir Ratsorarmampian. L'opposition estime que les nouvelles lois électorales visent à la museler avant le premier tour des élections présidentielles et législatives dans 7 mois. Dimanche soir, le chef de l'État a dénoncé une tentative de coup d'État. Il a accusé l'opposition d'inciter la population à l'insurrection et à troubler l'ordre public. La veille, une marche interdite a dégénéré en violent affrontement avec l'armée et la police. Au pouvoir depuis 2013, le président Ratsorarmampian n'a pas encore annoncé sa candidature pour un second mandat. En revanche, ses deux principaux chefs de l'opposition et anciens présidents, Marc Ravalomanan et Andry Rajoel, ont déjà manifesté l'intention de se lancer dans la course.
En Afrique du Sud, la police a tué par balle un adolescent lors de nouvelles manifestations violentes après celles qui avaient provoqué la semaine dernière le retour précipité au pays du président Cyril Ramaphosa. Le garçon de 16 ans a été tué par balle par la police. Les services enquêtent sur les circonstances du drame. Des manifestations ont éclaté dans la province sud-africaine du Nord-Ouest pour protester contre le manque de services publics et dénoncer la corruption.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Canada, le conducteur de la camionnette Alex Minassian, 25 ans, qui a foncé dans la foule lundi à Toronto, a été inculpé au tribunal de 10 meurtres avec préméditation. Il s'est également vu signifier 13 chefs d'inculpation de tentative de meurtre sur autant de blessés graves. Le conducteur aurait agi de manière délibérée et les autorités privilégient dorénavant la thèse d'un acte isolé ne visant pas la sécurité nationale du Canada. Les Nations Unies ont mis en garde contre un nouveau désastre humanitaire en Syrie, à Idlib, lors d'une conférence des donateurs à Bruxelles en faveur de 5 millions de Syriens réfugiés dans les pays voisins et des 6,1 millions de déplacés internes. Nous assistons à l'un des plus grands échecs politiques du début du 21e siècle, a lancé le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, à l'ouverture de la conférence. Il s'agit de la plus grande crise au monde, a-t-il ajouté. La Russie a exhorté les participants à un forum de l'ONU sur la non-prolifération nucléaire à soutenir le fragile accord sur le nucléaire iranien en signant une déclaration coécrite avec la Chine. Puis Téhéran multiplie les avertissements contre Washington qui menace de se retirer des accords iraniens. Le président français Emmanuel Macron entame le deuxième jour de sa visite d'État aux États-Unis. Il vient de tenir une conférence de presse conjointe avec son homologue américain à la Maison-Blanche. Le point avec notre envoyé spécial sur place, Nicolas Pinault.
Oui, bonsoir Raïssa.
Bonsoir Nicolas. Alors, que s'est-il passé? Pouvez-vous nous faire un récapitulatif de cette conférence de presse?
La conférence de presse qui vient de s'achever, l'événement, c'est bien évidemment ce nouvel accord iranien qui, en tout cas, pourrait être négocié. La France est favorable. On sait que le président Trump avait des vues très négatives sur le précédent accord qui avait été fait avec l'Iran. Eh bien, le président Macron affirme qu'un nouvel accord qui n'enterrerait pas le précédent accord pourrait être renégocié. En tout cas, c'est sa volonté. Il va en faire part, évidemment, aux Européens. C'est la grande annonce. On a eu également un thème majeur qui était la présence en Syrie et notamment comment lutter contre l'influence iranienne en Syrie dans le cadre d'une Syrie post-guerre. Les deux hommes qui ont salué l'amitié entre les deux peuples, qui ont salué leur amitié personnelle. de cette conférence de presse qui s'est terminée il y a quelques secondes à la Maison-Blanche. Nicolas Pineau, Washington, VOA.
Merci beaucoup Nicolas Pineau, mais vous avez une petite chose à rajouter sur l'ambiance qu'il y avait entre avec l'homologue américain. Comment est-ce tendu, qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ce sujet?
Non, c'était une ambiance très cordiale, les deux hommes s'apprécient beaucoup et pour la petite anecdote, Donald Trump a même fait une bise à Emmanuel Macron, ce qui révèle évidemment la complicité entre les deux hommes.
Merci beaucoup, c'était Nicolas Pineau, envoyé spécial de la VOA à la Maison Blanche. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
En RDC, la société minière Kibali veut un consensus avec le gouvernement dans l'application du nouveau code minier. La loi a braqué les géants du secteur contre Kinshasa. Cette entreprise majoritairement sud-africaine plaide pour des garanties fiables de stabilité fiscale au bénéfice des investisseurs dans l'industrie à long terme. Promulgué en mars dernier, le code relève les taxes sur les métaux stratégiques, modifie une clause de stabilité de 10 ans et taxe les super-profits des sociétés minières. Le sous-sol congolais regorge d'une abondance de métaux précieux dont l'or, le cuivre, le cobalt, le diamant, l'uranium et la cassitérite. Le groupe français Bolloré veut investir 300 millions d'euros en 2018 sur le continent africain. Il est présent dans 46 pays. Ses activités africaines ont généré 2,5 milliards d'euros l'année passée. Bolloré gère directement les terminaux à conteneurs de 10 ports de la région de Conakry en Guinée à Pointe-Noire au Congo. En juin 2019, il va construire à Abidjan en Côte d'Ivoire un deuxième terminal portuaire capable d'accueillir des plus grands porte-conteneurs fréquentant les côtes africaines.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir Aïssa.
Alors Mohamed Salah est de retour à Rome ce soir avec Liverpool et contre son ancien club, la Roma.
Et oui, Aïssa, désigné dimanche meilleur joueur de Premier League, l'attaquant égyptien marche sur l'eau et personne ne le sait mieux que la Roma. Mohamed Salah va tenter d'enterrer son ancien club ce soir en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Liverpool et AS Rome, un remake de la finale de 1984, remportée par les Reds à Rome. On rappelle que Liverpool a éliminé Manchester City en quart de finale et détient la meilleure attaque de la compétition cette saison avec 33 buts, dont 8 pour Mo Salah. Il faudra tout de même se méfier au stade olympique de Rome des Italiens qui ont sorti le FC Barcelone en quart. Coup d'envoi 18h45, temps universel.
Et Yacouba, en Italie, le poste de sélectionneur a été proposé à Ancelotti.
Tout à fait, Raissa. Carlo Ancelotti a rencontré deux dirigeants de la Fédération Italienne de Football, Roberto Fabbricini et Alessandro Costa à Curta, d'après le quotidien Corriere dello Sport. De son côté, Sky Sport Italia affirme qu'Ancelotti s'est vu proposer un contrat de 2 ans. La squadra Azzurra n'a plus de sélectionneur permanent depuis le départ de Gian Piero Ventura après l'échec historique en éliminatoire du Mondial 2018 en Russie, en barrage encore face à la Suède. En novembre dernier, le technicien italien sera également courtisé par Arsenal et Chelsea, selon la presse sportive italienne.
L'Allemagne a déposé son dossier de candidature pour l'Euro 2024.
Le président de la Fédération allemande de football, Reinhard Grindel, a remis son dossier de candidature au secrétaire général de l'UEFA, Theodor Theodoridis. Il était accompagné notamment de l'ambassadeur de la candidature allemande pour l'Euro 2024, l'ancien international Philippe Lahm. L'Allemagne n'a plus accueilli d'Euro depuis 1988. La Turquie, l'autre candidate, doit déposer son dossier ce jeudi. Le pays hôte de l'Euro 2024 sera désigné le 27 septembre prochain par le comité exécutif de l'UEFA.
Et triste nouvelle, l'ex-sélectionneur du Cameroun et du Maroc aussi, Henri Michel, est décédé.
Oui, Raissa, l'ancien technicien français est décédé à l'âge de 70 ans des suites de maladies. Henri Michel a entraîné pas moins de 7 sélections en Afrique, dont la Côte d'Ivoire et le Maroc, qui l'a amené à des Coupes du Monde, 2006 pour les éléphants et 98 pour les lions de l'Atlas. Il a aussi entraîné le Cameroun, la Tunisie, la Guinée et le Kenya et a été à la tête de clubs comme le Zamalek ou le Raja Casablanca.
Merci beaucoup, Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, l'UDPS a tenu son premier meeting depuis l'élection de Félix Tshisekedi à la tête du parti en remplacement de son père. Le gouvernement autorisé à la manifestation après une trêve politique signée pour le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Et ce meeting coïncide avec le 18e anniversaire de la démocratisation du pays. Eddy Sango a joint pour une analyse un chercheur en politique à l'université de Kinshasa, Martin Ziakwo.
Pour la majorité au pouvoir, c'est de montrer sa volonté à asseoir la démocratie. Et pour l'UDPS, c'est d'insuffler un nouvel élan au dynamisme de ses partis qui a été déchiré, qui s'est affaibli depuis le décès de son leader maximum, Étienne Tshisekedi. Donc chacune des parties a intérêt de tirer largement profit du symbolisme de la date du 24 avril. Reste à savoir si cette détente politique à laquelle on assiste pourrait donner lieu à une coexistence pacifique entre la majorité au pouvoir et l'UDPS.
Jusqu'à quand ira cette détente politique, parce qu'elle est liée à la signature d'un accord pour le rapatriement de la dépouille de M. Étienne Tshisekedi, mais dont la date n'est pas déterminée?
Le plus grand enjeu est de savoir si cette détente pourrait donner lieu à une coexistence pacifique entre la majorité au pouvoir et l'UDPS dans un contexte préélectoral quelque peu agité. Quand on connaît les intentions au sein de l'opposition, ceci pourrait constituer pour la majorité une opportunité pour diviser le rassemblement, puisque une alliance politique entre l'UDPS et la majorité irait dans le sens d'affaiblir, sinon de signer carrément la mort du rassemblement, quand on sait que le clan Katumbi a déjà formé sa plateforme électorale et que Félix Tshisekedi ne cache pas non plus son intention de postuler à la haute magistrature. Donc il y a là du symbolisme à travers lequel chacun définit son action stratégique, mais reste à savoir comment ça va se passer et jusqu'où les uns et les autres pourraient tirer profit de ces symbolismes.
Comment voyez-vous ces mariages? Parce que jusque-là, l'UDPS, où Félix Tshisekedi a dit qu'il n'était pas preneur des appels des pieds pour devenir Premier ministre.
Je m'interdis d'analyser les déclarations publiques parce que le vrai enjeu politique est du ressort de l'action secrète. Mais j'insiste sur le fait que le symbolisme du 24 avril est susceptible d'offrir de gains politiques aussi bien à la majorité au pouvoir qui en profiterait pour non seulement asseoir la détente avec l'UDPS au détriment du renforcement du rassemblement en faveur de Moïse Katumbi, pour ne pas le citer.
Mais une ouverture politique devrait concerner tout le monde, pas que l'UDPS.
C'est une nouvelle phase à laquelle nous assistons. Le gouvernement devrait donc rester dans cette logique pour confirmer l'option suivant laquelle elle serait déterminée à préserver les acquis de la démocratisation, voire à renforcer l'élan de démocratisation.
C'était Martin Ziakwo, chercheur en politique à l'université de Kinshasa.
L'émission interactive de VOA Afrique, à votre avis, c'est à 18h05. C'est en Afrique qu'a été lancé le premier programme au monde de livraison médicale par drone, précisément au Rwanda, où de nombreux élèves d'ailleurs ont leurs tablettes, comme en Côte d'Ivoire et à Maurice. À votre avis, faut-il investir davantage dans la technologie? L'accès aux nouvelles technologies, selon vous, est-il indispensable? Et pourquoi? Autant de questions auxquelles vous pouvez répondre en participant. Laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. A tout à l'heure sur VOA Afrique.
Nous revenons sur le cas de l'industriel français Vincent Bolloré. Est en garde à vue à Nanterre sur des soupçons de corruption en Guinée et au Togo. L'homme d'affaires très présent en Afrique, notamment dans le ferroviaire et le secteur portuaire, est soupçonné d'avoir obtenu des concessions portuaires dans ces deux pays en échange de services de communication politique sous-facturés. Mais le groupe Bolloré a fermement démenti s'être livré à des activités illégales. Pour réaction, Abdourahman Dia a joint à Paris Thomas Borel, le porte-parole de l'association Survie.
Mais écoutez, on savait que Vincent Bolloré allait être auditionné dans le cadre de l'enquête qui était ouverte sur ces deux ports, hein, le port de Conakry et le port de Lomé, pour où le groupe Bolloré était suspecté en fait d'avoir obtenu ces concessions en l'échange d'une sous-facturation de prestations de communication dans la campagne électorale des deux présidents. Par contre, la nouvelle effectivement du jour, c'est qu'il a été placé en garde à vue, et donc ça c'est tout de même une surprise, même si on pouvait l'espérer, rien ne permettait de s'y attendre à coup sûr.
Donc c'est un peu l'influence politique de l'Empire Bolloré un peu qui revient sur la sellette.
Oui, cette histoire, elle montre si les soupçons sont avérés, puisque pour l'instant il est présumé innocent, mais cette histoire montre comment des groupes français peuvent, par des réseaux d'influence, d'amitié, d'influence, peuvent finalement obtenir certaines faveurs, certaines concessions de port en l'échange d'autres prestations fournies. Et là, l'enquête en cours, c'est pour corruption d'agents publics étrangers, la corruption étant le soupçon de corruption portant sur la sous-facturation de la communication. En gros, l'agence de communication liée au groupe Bolloré fait la campagne électorale du président Alpha Condé, qui allait devenir président en 2010 en Guinée-Conakry, ou du dictateur Faure Gnassingbé au Togo, en 2010 aussi, et en l'échange, une sorte de retour d'ascenseur, le groupe, par sa filiale logistique, obtient la gestion des ports.
Justement, le groupe Bolloré a réagi à travers un communiqué et a démenti toute illégalité concernant ses activités dans ces deux pays.
Pour l'instant, ce que dit le groupe Bolloré, c'est qu'il n'y a aucune irrégularité dans le dossier. D'ailleurs, la présidence de Guinée-Conakry a également communiqué dans l'après-midi où un membre du gouvernement a dit qu'il n'y avait aucune irrégularité non plus dans la concession du port de Conakry. Évidemment, toute la difficulté, et ça c'est le travail des juges, et surtout avec un nombre oglio réglementaire, c'est de démêler d'une part le vrai du faux, mais de démêler ce qui est légal de l'illégal.
Bolloré, c'est un grand nom en Afrique, et il n'opère pas qu'en Guinée et au Togo. Vous vous attendez à d'autres cas dans d'autres pays, comme il y a par exemple le cas des chemins de fer au Bénin?
Pour l'instant, alors sur les ports, effectivement, il a, je crois, la concession de 16 terminaux, ou en tout cas dans 16 ports africains, si je me souviens bien, mais il est extrêmement présent dans différentes activités, sur le rail, sur aussi au travers de la holding Socfin, dans les plantations, l'activité de palmiers à huile notamment, où ça fait régulièrement parler du groupe Bolloré. Donc évidemment, nous, on espère que ce travail puisse donner des idées à d'autres, mais pour l'instant, l'instruction, elle est ouverte uniquement sur ces deux pays.
C'était Thomas Borel, le porte-parole de l'association Survie.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et direction le Bénin, 350 milliards de francs CFA, c'est le montant indicatif de la dette intérieure du pays et pour laquelle le gouvernement béninois aurait délivré à la Société Générale de l'Intermédiation du Bénin un mandat lui donnant plein pouvoir de procéder à la recherche d'investisseurs potentiels pouvant acheter cette dette intérieure. Et cette affaire fait grand bruit. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adande.
Dans le souci de relancer l'économie béninoise à travers l'injection de liquidités et le remboursement à un seul créancier au lieu de plusieurs, l'État béninois envisage le rachat de la dette intérieure bancaire du pays. Si certains spécialistes des questions économiques comprennent la démarche, c'est le montant qui inquiète. Comment l'État béninois s'est-il arrangé pour avoir une dette de 350 milliards de francs CFA? Le député Guimi Tokpe a d'ailleurs relevé quelques points d'ombre.
Le refinancement de notre dette bancaire suit les marchés financiers comporte d'énormes risques. Nous pouvons citer par exemple les fonds vautours qui depuis une décennie font de l'Afrique leur terrain favori. Je voudrais exhorter notre Parlement à prendre des mesures efficaces contre les fonds d'investissement spéculatifs car des pays dont l'économie est plus solide que le nôtre ont fait voter des lois pour mieux encadrer les emprunts souverains ou des actions contre les fonds vautours.
Selon les explications fournies par le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Bio Tchané, l'opération du rachat partiel de la dette intérieure, comme il est envisagé, vise des dettes contractées à des conditions qui ne sont pas à l'avantage de l'État béninois. Il s'agit donc des dettes héritées en grande partie de la gestion passée, ayant une maturité moyenne de 3 ans avec un taux d'intérêt moyen de 7,2 5%. Le gouvernement a donc entrepris de corriger cette situation en refinançant la dette actuelle, c'est-à-dire en contractant de nouvelles dettes à des taux bien plus faibles sur une durée beaucoup plus longue. Les opérateurs économiques espèrent en l'apurement complet de la dette intérieure qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Pour Régis Facia, vice-président du Conseil national du patronat, c'est déjà une chance que le Bénin soit dirigé par un opérateur économique.
Aujourd'hui, par un concours de circonstances qu'on va dire heureux, il se fait que celui qui nous gouverne est un chef d'entreprise, donc il a conscience de l'importance, je dirais, du règlement de la dette intérieure. Donc je pense que c'est un premier signal qui fera, avancer les choses. Dans tous les cas, nous allons continuer à nous battre, à accompagner nos collègues chefs d'entreprise pour que l'ensemble des créances intérieures soient véritablement apurées.
Pour le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchane, malgré les difficultés, le gouvernement Talon prévoit des stratégies pour la relance de l'économie qui, malgré tout, reste chancelante.
Au cours des 10 dernières années, nous avons connu une croissance économique moyenne de 4,4%. Mais en même temps, nous avons vu la pauvreté s'accroître dans notre pays. Nous avons, par exemple, sur les 5 prochaines années, l'ambition d'atteindre un taux de croissance d'au moins 7%. Mais en même temps, générer de la croissance dans les domaines, dans les secteurs, mais aussi dans les communautés où nous pourrons générer plus d'emplois et donc réduire la pauvreté par la création de l'emploi.
Aujourd'hui, même si certains Béninois comprennent tant bien que mal le rachat de la dette intérieure, c'est la société à laquelle cette responsabilité est confiée qui dérange, puisque le chef de l'État est un actionnaire majoritaire. Pour certains, il y a conflit d'intérêts. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Et nous terminons au Togo, où il est désormais interdit d'importer du tilapia. La mesure saluée par les Togolais est motivée, selon le gouvernement, par le souci de protéger la pisciculture locale. Les importateurs grincent des dents parce que la décision n'est pas assortie d'une période moratoire pour leur permettre d'écouler les stocks existants. Reportage à Lomé de notre correspondante Kaye Lawson.
Le 16 avril dernier, par un arrêté interministériel, le gouvernement togolais a interdit l'importation, la vente et la consommation des tilapias produits dans des pays autres que le Togo. Cette décision, selon le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, vise à protéger le bassin togolais du virus du tilapia lacustre. Docteur Ibrahim Bari, le directeur de l'élevage par intérim.
C'est pour protéger nos élevages piscicoles. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement est en train de relancer le sous-secteur de la pêche et notamment de la pisciculture. Si ce virus venait à rentrer dans le pays, ça veut dire que les pisciculteurs vont perdre. Parce que quand ce virus rentre dans un bassin, c'est 90 à 100% de mortalité de poissons. Contrairement à ce que les gens racontent un peu partout, ça n'a rien à voir avec la santé publique. En jargon scientifique, on l'appelle une mesure SPS. Des mesures sanitaires et phytosanitaires.
Pour les Togolais, c'est la confusion totale. Ils croient que cette interdiction relève du domaine de la santé publique.
Ils sont fiers de ça parce que la santé avant tout. Donc on doit manger propre et bio. Des fois, les produits importés sont intoxiqués. Ça infecte la population. Donc nous avons préféré de manger les tilapias frais.
Déjà, c'est une bonne chose, mais il faudrait vraiment sensibiliser la population togolaise et leur dire les conséquences qui peuvent découler de la consommation de ces tilapias-là.
C'est une très très bonne décision parce que c'est notre santé qui est prise en compte. Sinon, on a appris comme quoi ces tilapias importés contiennent des éléments qui ne sont pas bonne pour notre santé. Donc.
Nous saluons l'adhésion du gouvernement. Il se soucie de la santé de la population. Ce n'est pas souci sanitaire que moi je ne consomme plus les produits congelés.
Pour Jacques Sivomé, directeur de Hestal Togo et importateur de produits congelés, le gouvernement aurait dû accorder un moratoire.
C'est l'association des importateurs de produits congelés qui a décidé d'arrêter l'importation de tilapia d'une façon provisoire pour soutenir la production locale.
Kaye Lawson, Lomé pour VOA Afrique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Joselle Morissin, la mise en onde. Bill Barber à la console. Raissa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook, sur notre site internet voaafrique.com. Excellente suite de programme.
Afrique.